Ça, vous l'aurez peut-être reconnu, c'était Nina Hagen, African Reggae. Nous sommes toujours dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous recevons Madame Françoise Cobre et Monsieur Nino Rizzo de l'École des Parents pour évoquer le cycle de conférences sur le thème Adolescence, un monde qui remue. Je vous rappelle que nous aimerions que vous remuiez votre téléphone en nous appelant au 50 40 51 41, 023 depuis Genève, 0033 depuis le canton de vos voisins, pour poser toutes les questions qui vous intéresse à nos deux invités. Alors, Françoise Cobre, peut-être vous pourriez nous dire, d'abord avant toute chose, qu'on comprenne qui sont ces adolescents qu'on évoque, parce que je crois que ça va plus loin que ce qu'on imagine. Ce n'est pas seulement les 13-15 ans.
Oui, il est paru dernièrement un livre qui avait pour titre « Les 12-30 ans », c'est-à-dire l'adolescence interminable. C'est vrai que l'adolescence, ça commence par une période de changement physique qui a des répercussions émotionnelles assez fortes. Et c'est la puberté qui dure quelques années, qui commence autour des 12 ans. Et là, il y a un comportement qui va d'un extrême à l'autre et qui est parfois assez déroutant pour les parents. C'est souvent à cette époque-là que les parents viennent nous consulter. Parce que, comme disait Nino, ils sont très perplexes devant le jeune et puis ils se demandent ce qu'il faut faire. Et c'est après qu'on discute le fait qu'eux-mêmes sont dans une période de changement. Mais je vais reprendre ça tout à l'heure, mais il y a la deuxième partie de l'adolescence qui est une mise en place des acquis de la puberté. L'intelligence arrive à un niveau beaucoup plus abstrait. Sur le plan des relations humaines, il y a des acquisitions d'identité sexuelle. Sur le plan du corps, il y a aussi les acquis physiologiques. Donc, dans cette deuxième partie de l'adolescence, il y a une espèce de digestion mentale de tout ça, une espèce de maturation. Et elle n'est pas terminée très souvent par le fait qu'on a 20 ou 21 ans, mais c'est un processus qui dure encore très facilement jusqu'à 23, 24 ans, suivant le genre de relation qu'on a avec ses parents. Parce qu'on peut dire que la fin de l'adolescence ne correspond pas à un âge, mais comme c'est une façon d'être, un mode de relation, c'est vraiment quand on se sent indépendant de l'opinion de nos parents sur nous-mêmes et qu'en même temps on peut garder un contact acte serein, positif avec ses parents, qu'on peut se dire que vraiment on a en partie dépassé cette adolescence. Et alors j'aimerais quand même dire aussi que l'adolescence n'est pas vraiment toujours entièrement dépassée. Ça reste une porte qu'on peut ouvrir ou fermer et suivant les circonstances, eh bien il y a des mécanismes d'autrefois qui se remettent en place. Voilà.
Alors je crois que à partir de ce que vous venez de nous dire, on va pouvoir mieux comprendre comment vous avez essayé d'aborder les problèmes des adolescents à partir de thèmes particuliers au cours de ces différentes conférences. Alors celle que vous donniez hier soir, Françoise Cobre, avait donc pour thème, vous l'avez dit tout à l'heure, la crise et mouvement dans la famille lors de l'adolescence. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quels sont les problèmes que vous avez soulevés sur ce thème-là, à propos de ce thème-là?
Alors bien sûr, il y a tous les problèmes de la séparation et le rapprochement, ce que j'appelais l'aval-hésitation. Mais ce qui me paraît très très important de noter, c'est cette coévolution des parents et des jeunes. Que chacun, dans son stade de vie, dans son stade existentiel, tant les parents que les jeunes rencontrent des changements. Et les parents sont autour du milieu de leur vie, la femme est autour de la ménopause. Donc il y a toutes sortes de remises en cause personnellement, et en couple et en famille. Par exemple, bon, ces changements hormonaux qui rendent l'humeur fragile de l'adolescent, ben, les parents, la femme, la mère surtout, le vit aussi. La recherche de travail, l'anxiété par rapport à cela, la femme qui décide un recyclage, le vit aussi. Et il y a comme ça toutes sortes de choses. Le deuil que l'adolescent doit faire de son enfance, de son corps d'enfant, la femme le vit aussi, dans le sens que son corps plus jeune, son corps qui pouvait avoir des enfants, eh bien, elle voit qu'il se modifie. Et le nid vide, le phénomène où le couple va se retrouver sans les enfants, eh bien, c'est aussi le problème du jeune qui cherche quelle relation il peut avoir avec un partenaire. Il y a là une espèce de coévolution qui rend les choses plus faciles et plus difficiles. Plus faciles parce que alors les parents sont en quelque sorte, par le fait qu'ils bougent eux-mêmes, peut-être plus souples pour s'adapter à des choses qui sont demandées par l'adolescent. Mais d'un autre côté, on peut avoir une famille qui tout d'un coup a comme un vague à l'âme ou le mal de mer, parce que si tout le monde évolue, tout le monde a des humeurs, c'est pas toujours facile. Et ce qui rend une phase familiale avec un jeune qui est à l'adolescence, qui la rend peut-être plus solide, c'est d'avoir pu, avant l'adolescence, prévoir toutes sortes de souplesse à l'intérieur des familles, pouvoir discuter des règles de famille, ce qui se fait souvent dans les familles où il y a un conseil de famille. Donc les enfants réfléchissent déjà entre eux, avec les parents, sur certaines modalités, sur certains règlements à l'intérieur des familles.
Qu'est-ce que vous appelez un conseil de famille ?
Ah, c'est un mot que les parents donnent, c'est une réunion qu'ils peuvent avoir ensemble. Je ne sais pas, je connais une famille où ils font ça, je ne sais pas quel soir, mais enfin un soir, un moment. Et ils sont là tous ensemble, ils discutent de ce qui s'est fait, de ce qui ne s'est pas fait, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vont faire, leurs projets. Et il y a des comptes qui se règlent là. Et je trouve que c'est un petit balayage hebdomadaire dans la famille qui satisfait certaines familles. Alors, c'est pas à faire par tout le monde, mais je crois que ça prépare très bien à cette réflexion que l'adolescent peut avoir sur les modalités des tâches, des règlements habituels dans la famille, et ça aide les parents à partager cette responsabilité-là.
Alors François Scope, si dans ce que vous venez de nous dire, on voit que les parents sont très remis en cause par ce qui change chez eux à ce moment-là, aussi bien que chez les adolescents, il y a parfois dans ces bouleversements peut-être un changement qui devient problématique. C'est pas simplement le normal, on peut des fois plonger dans une situation plus grave. On connaît des femmes dans les circonstances que vous avez décrites, soit par leur changement physique, soit parce qu'elles doivent tout à coup reprendre une activité, se sentent sans force et sans énergie pour faire cela, et c'est la déprime. Mais apparemment, ce problème-là se pose aussi chez les adolescents, Nino Rizzo.
Oui, bien sûr.
Et c'est le thème de la deuxième conférence,
c'est le thème,
on pourrait le dire.
Précisément, voilà. La deuxième conférence qui, à partir de ce regard général que Françoise Cobre a brossé, a donné hier soir, cette deuxième conférence, davantage se centrer sur la problématique côté adolescent. Pourquoi déprime ? Je dirais même inévitable déprime. Parce que tout simplement, il y a changement de statut à l'adolescence. Et l'adolescent perd un statut qu'il connaît bien depuis 11-12 ans. C'est le statut de l'enfance qui donne bien des avantages. Et il perd ce statut pour quelque chose d'autre qu'il pressent vaguement, mais qu'il ne connaît pas. Et en tout cas, un statut dans lequel il n'est pas encore installé, il ne sait pas encore quelle place et s'il va trouver une place. Donc il y a perte de quelque chose de sûr et de bon, et puis recherche plus ou moins vague d'autres choses qu'on connaît mal ou dont on connaît certains exemples, certains modèles, les parents, les adultes en général, modèles qui parfois, souvent, ne correspondent même pas à l'idéal que l'adolescent sait lui-même forgé de ce monde adulte. Donc, inévitablement, il y a dépression dans ce passage de quelque chose de connu qui est en train de se perdre à quelque chose de nouveau que l'on ne sait pas encore si et comment on va acquérir. La dépression, en général, a une connotation négative. Or, je pense qu'à l'adolescence, encore que cette dépression est souvent un moment de chance, même pour l'adulte. À plus forte raison, la dépression pour l'adolescent est un moment de travail intérieur. L'adolescent a besoin de traverser cette période de déprime, de repli à l'intérieur de lui-même pour pouvoir élaborer les positions qu'il va petit à petit par la suite acquérir, occuper, qui vont lui permettre d'être adulte. Ces repères qu'il est en train de perdre puisqu'il quitte l'enfance, il doit les remplacer avec d'autres repères. Or, c'est justement ce travail de repli à l'intérieur de lui-même qui se fait à la lumière de tristesse, de déprime, de découragement, d'incertitude, de doute. C'est tout ça ce qui va permettre à l'adolescent d'élaborer petit à petit d'autres repères ou, si vous préférez, une autre identité. Donc, loin de peindre la déprime comme quelque chose de négatif, je dirais la déprime chez l'adolescent est quelque chose de nécessaire. Et l'adolescent qui ne déprime pas, l'adolescent qui traverse sa période de vie de 13 à 18 ou 20 ans de telle sorte à ce qu'il ne pose aucun problème, c'est un adolescent qui passe à côté de cette réélaboration. Or, bien évidemment, cela comporte crainte, doute, angoisse chez lui-même et chez l'adulte. Mais peut-être que ces angoisses, ces doutes, faut pouvoir les vivre sans dramatiser, comme parfois, par exemple, on le voit avec des parents qui viennent en consultation à propos de la dépression de leurs enfants.
Oui, c'est très intéressant de voir que pour beaucoup de parents, le fait que leur enfant déprime est une très grande culpabilité.
Oui,
et
oui.
Ils ont un idéal où, au fond, si tout allait bien, l'enfant grandirait sans ces moments de repli, ces moments de grande mobilité intérieure. Et alors, effectivement, le fait qu'il y a chez, par exemple, une mère qui est dans la période proche de la ménopause, c'est déjà cette tendance à se dévaloriser elle-même. Et si elle voit que par-dessus le marché, son enfant commence un peu à déprimer, eh bien ça permet une amplification de cette perception qu'elle est une mère mauvaise ou qu'il est un père mauvais, etc. D'où l'importance de pouvoir parler de tout cela en remettant chaque chose à leur place.
J'ai une question. Est-ce que vous observez une différence de réaction entre les adolescents et les adolescentes, entre les garçons et les filles? Est-ce qu'ils suivent le cheminement que vous venez de décrire, oui. Nino Rizzo, de la même façon?
Mais par exemple, si je reprends ce que Françoise vient de dire à propos de ce jeu de miroir entre la mère et la fille, la mère qui se trouve confronté plus que le père à un changement physique dans sa vie, dans son cycle de vie, eh bien, chez la fille, il y a aussi un changement qui est par jeu de miroir et par amplification plus délicat. C'est-à-dire la fille de 13-14 ans qui s'ouvre à la vie, alors que par ailleurs, elle sent que sa mère... enterre une partie de sa sexualité, alors qu'elle sent que sa mère passe d'un autre côté. Pour la fille, ce sera beaucoup plus difficile d'accéder à une sexualité si elle sent, par exemple, que sa mère, elle, est en train de terminer ce cycle-là, que pour le garçon. Parce que le garçon a un miroir qui... pour des raisons culturelles mais aussi physiques, à un miroir chez le père qui dure plus solidement, en tout cas en cette partie de sa vie. Donc j'ai l'impression que souvent je me retrouve face à des problèmes d'identité sexuelle plus délicats à manier chez la fille que chez le garçon, justement par ce jeu de miroir que la fille vit de manière plus délicate que le garçon.
Françoise Cobre, à l'écoute des parents d'adolescents, tel est le thème de la troisième conférence. Alors, quelle différence est-ce que vous allez proposer dans ce type de conférence-là, des solutions possibles aux parents pour résoudre leurs problèmes ?
Bien, nous envisageons avec les parents un certain type de dialogue avec les adolescents, parce qu'on ne peut pas donner des recettes et puis des lignes de conduite comme ça a priori. Par contre, on peut leur proposer un certain type de dialogue où j'ai souvent une image, je dis, ils ouvrent leur téléphone intérieur sur ce qui se passe chez l'adolescent. Ils recueillent le feedback et en recevant ce feedback, ils peuvent stimuler l'adolescent à formuler ce qu'il sent, ce qu'il souhaite, ce qu'il voudrait, ce qui ne va pas, c'est-à-dire à se définir, à être plus précis. Et parmi les modalités d'intervention que Nicole Sternman va présenter, c'est effectivement l'écoute. Ça paraît tout bête, mais l'écoute est quelque chose d'extrêmement délicat et difficile à faire. Souvent, on me dit « Oh, mais j'écoute mes enfants, je leur ai raconté ça, je leur ai demandé ça, je leur ai dit ça. » Et c'est effectivement souvent le silence ou bien le renvoi de ce que l'adolescent a dit sans porter de jugement, sans critique, sans ironie, sans conseil surtout. Et souvent, les adolescents disent « Ce que je souhaite de mes parents, c'est pas qu'ils me donnent des conseils ou ils me disent ce que je dois faire, mais j'aimerais qu'ils m'écoutent. » Parce que écouter quelqu'un, c'est lui faire un cadeau, c'est lui reconnaître qu'il a déjà une existence. Donc ça, ce sera très important dans la conférence de Nicole Sternberg.
Parce que qu'est-ce qui fait obstacle à ce que les parents écoutent les enfants ? C'est souvent dans l'impression « Ah, mais c'était pas comme dans mon temps ». Enfin, est-ce qu'on entend encore ce genre d'expression parmi les parents qui ne pensent qu'à ce qu'ils ont fait eux et qui ont de la peine à s'adapter à ce que leurs enfants vivent aujourd'hui ?
Ça arrive. Mais je crois que c'est surtout l'extraordinaire bonne volonté de beaucoup de parents qui veulent en remettre. Et c'est aussi l'angoisse des parents dans le monde actuel qui est vraiment difficile. Et ils aimeraient, en somme, faire beaucoup pour que leurs enfants partent bien. Alors, effectivement, il s'agit de ne plus faire beaucoup, mais d'être là, d'assister, de ne pas dire « faites vos expériences » ou bien dire ce qu'il faut faire, mais être là pour, en cas de coup dur, pouvoir en parler.
J'imagine, Nino Rizzo, que dans ce sens-là, les problèmes scolaires doivent être une préoccupation importante qui parfois doivent sacrément bouleverser ce fameux dialogue. Parce que quand les jeunes échouent, eh bien, on n'a plus tellement envie de discuter, mais on dit « il faut que tu réussisses, parce que pour ton bien, ce serait mieux que tu réussisses ».
C'est ça, c'est ce qu'on dit, pour ton bien. Alors qu'en fait, il y a des enjeux très, très importants du point de vue des parents. Et souvent, l'échec scolaire véhicule quelque chose entre l'enfant, l'adolescent et le parent. Effectivement, de plus en plus, je vous disais, on a des problèmes amenés par les parents d'adolescents, des problèmes liés à la scolarité. Mon fils vient de faire un échec, mon fils est en train de faire un échec. Quoi faire pour l'aider à poursuivre cette filière plutôt qu'une autre ? Et puis voilà, surtout, des problèmes liés aux examens, les examens finaux qui deviennent des fantasmes, des fantômes bien, bien dangereux. Alors voilà, la problématique scolaire qui remplace aujourd'hui la problématique purement sexuelle telle qu'elle était amenée il y a 15-20 ans est en support d'autres choses. Et quand on pense que les parents en général donnent une grande importance à la réussite scolaire, on peut imaginer qu'à ce moment-là, l'adolescent saisit ce qui est important pour le parent pour se confronter à lui, père ou mère, pour lui montrer son désaccord à propos d'autres choses, souvent que la scolarité elle-même. Mais voilà, la scolarité devient souvent le théâtre où le drame, la difficulté, la confrontation, les désaccords, les conflits se jouent. Alors, ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'est d'éclaircir ce champ de bataille et puis dégager le conflit de ce faux champ et le mettre là où le conflit se passe réellement. Et alors, on se rend compte qu'en général, le garçon, la fille ont autant envie de réussir à l'école que les parents. Mais quelque chose d'autre, de ne pas dit, fait que le problème, le conflit se passe justement autour de l'échec scolaire. Mais parfois, le problème se passe à l'envers de l'échec scolaire. Je veux dire par là que il n'est pas si rare que ça d'entendre des parents qui nous disent « ma fille ou mon fils me tyrannise, on ne peut pas sortir le week-end parce qu'il veut travailler même le week-end ». Je veux dire, d'une manière ou d'une autre, l'enjeu scolaire devient le terrain où la confrontation s'engage de plus en plus souvent.
Vous disiez tout à l'heure que la problématique de l'échec scolaire avait remplacé la problématique de la sexualité. Est-ce à dire que les parents ne se posent plus de questions, n'ont plus peur du changement et du développement de la sexualité chez leur enfant ?
Non, je dirais même que maintenant, avec les problèmes liés au sida, cette problématique revient un peu, mais de manière différente. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, souvent les parents venaient avec des problèmes autour des questions liées à la pilule, au premier pas dans la sexualité, permettre ou pas permettre à son fils, à sa fille qu'ils aient une vie sexuelle normale. Aujourd'hui, ce terrain-là a été, dégagé des enjeux qui n'étaient pas strictement liés à la sexualité, mais qui concernent plutôt une prise d'autonomie, une recherche d'identité, qui n'est pas uniquement la sexualité. Et dans ce sens-là, effectivement, aujourd'hui, il y a moins de problèmes purement sexuels, mais parce que les parents et les enfants eux-mêmes dramatisent moins qu'il y a 10, 15 ans.
Effectivement, Françoise Cobre, est-ce que vous pensez que parce que les femmes, les mères d'adolescents d'aujourd'hui sont des femmes qui ont elles-mêmes pris la pilule, qui ont elles-mêmes vécu ce qu'on appelait la libération sexuelle, est-ce qu'elles arrivent mieux transmettre à leurs filles ou peut-être même à leurs fils, parce que peut-être qu'elles arrivent mieux discuter aussi avec leurs fils, cette souplesse, cette liberté, cette autonomie au niveau de la sexualité, ce que les femmes ont vécu fait que ça change aussi dans la façon de résoudre ces problèmes-là avec les adolescents.
Oui, et certainement, mais il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau où effectivement on est plus à l'aise par rapport à la contraception et les relations avec les garçons. Mais il y a le deuxième niveau qui reste quand même quelque chose dans lequel on est très pudique, on a de la peine à parler du fond. De ces émotions par rapport à la sexualité. Alors sur le plan d'information, de technique, oui, ça, il n'y a pas de problème, ça se banalise. Mais l'émotion, comment on passe de la sexualité, j'allais dire mécanique, à la tendresse, ça n'est pas simple. Mais c'est moins compliqué qu'autrefois, ça c'est vrai.
la cinquième conférence est consacrée aux relations ados-parents. Cette conférence va aborder plus spécifiquement toute la question du laborieux changement du deuil. Tout adolescent, pour pouvoir s'octroyer de grandir, doit d'abord se couper du monde de l'enfance. Et ça, c'est un problème que l'adolescent a à vivre lui-même, aidé bien sûr par ses parents, mais il faut que petit à petit, il acquiert une confiance en quelque chose d'autre, ce monde adulte. Donc, en ce sens-là, cette conférence va aborder notamment toute la tristesse liée à l'idée d'abandonner les parents, en tout cas les parents qu'il a eus jusqu'à présent. Donc, ça veut dire retrouver avec les parents toute une relation d'adulte à adulte qui n'est plus celle qu'il a vécue jusque-là. Et cela veut dire tout un remaniement du langage, tout un remaniement de la dynamique parent-enfant qui souvent pose problème, d'ailleurs pas seulement à l'adolescent, mais aussi à l'adulte, car l'adulte lui aussi se demande si, en laissant une certaine liberté à son fils ou à sa fille ou à son fils, s'il va tout de même retrouver un bon rapport avec lui ou avec elle. Je veux dire, il y a toute une peur de la perte qui est partagée de part et d'autre.
De se dire vraiment que les choses avançaient tellement lentement qu'il y avait de quoi être lasse et de quoi perdre le sourire. Et alors c'est là que tout à coup l'une d'entre nous a lancé l'idée, mais dans le fond ce jour-là, on devrait leur montrer et on devrait faire grève. Et ben, depuis cette idée, la soirée a rebondi et on s'est animé. On s'est dit mais c'est vrai que on peut pas laisser passer ça comme ça, on peut quand même pas faire une fête parce qu'il y a rien à fêter. On peut pas laisser passer 10 ans sans trouver une intervention pour les marquer, ces 10 ans. Et l'idée de la grève ensuite a fait son chemin. On a formulé la proposition, on a analysé à la Conférence nationale des femmes à la FTMH les possibilités. Les craintes à l'égard d'une telle action, quand même les femmes avaient très peur, les hommes, qu'est-ce qui va nous arriver, puis ça se fait pas, et puis qu'est-ce que les hommes vont en penser, et puis nos chefs, et puis nos maris, enfin. Et avec l'analyse de toutes ces craintes, on s'est dit quand même, oui, on doit faire une action qui se rapporte au travail. Parce que c'est le travail des femmes qui n'est pas reconnu. Aussi bien le travail en entreprise, travail professionnel, que le travail au foyer. Puisqu'il n'est pas reconnu non plus, notamment il n'est pas reconnu du tout dans les assurances sociales, mais il n'est pas reconnu dans la société en général comme étant un travail, un apport économique dont la société a absolument besoin. Moi, je connais des tas de collègues masculins qui, quand je leur demande puis qu'est-ce qu'elle fait ta femme, ils me répondent « mais elle ne fait rien ». Hein, elle fait rien, mais elle éduque peut-être 3 enfants et puis elle fait tout le ménage. Mais enfin, c'est quand même ça la réponse. Et puis, la seule action possible qui se rapporte au travail et qui se voit, c'est l'arrêt de travail. C'est pour mettre en évidence la qualité du travail, pour mettre en évidence l'indispensabilité de ce travail, il faut ne plus l'exécuter pour un moment. Et d'où notre idée, eh bien, le 14 juin, ce sera la grève des femmes. Alors bon, bien sûr que tout le monde et toutes les femmes participent.